de santé 88.4.
Bonjour et bienvenue dans la deuxième émission d'Enjeux de santé consacrée au VIH et au SIDA. Vous avez loupé la première partie, pas de problème, elle est bien sûr toujours disponible en podcast sur radiocampusrennes.fr/ENJE. Et comme lors de la première émission, c'est le docteur Arvilleux, médecin infectiologue et président du COREVI, la coordination régionale de la lutte contre le VIH, qui répondra à nos questions. Et la première concerne le dépistage. Et oui, où peut-on se faire dépister en Bretagne ?
Alors, vous avez des centres de dépistage dans tous les départements. Ce n'est pas les principaux, en termes de nombre de dépistages réalisés, ce n'est pas les principaux endroits en France, puisque ceux qui dépistent le plus, finalement, c'est les médecins généralistes. Donc, on peut se faire dépister chez son généraliste. On peut se faire dépister directement au laboratoire, éventuellement. On peut se faire dépister dans les centres de dépistage où ça a l'avantage d'être gratuit et éventuellement anonyme. Et puis, il y a des associations qui proposent du dépistage, notamment pour essayer ce qu'on appelle du dépistage communautaire. Et on a mis en place depuis quelques mois maintenant, un peu plus d'un an, du dépistage avec ce qu'on appelle des tests rapides d'orientation. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire de prise de sang, on fait une petite piqûre au bout du doigt, on met ça sur une bandelette, et puis ça permet, c'est assez fiable, c'est pas aussi fiable que les tests classiques, mais c'est quand même très très fiable. Et ça permet, si la personne est positive pour ce test-là, de l'orienter vers une sérologie, un test plus complet, en sachant qu'il y a peu de discordance en pratique. Donc les personnes qui sont séropositives avec leur test rapide, dans l'immense majorité des cas, on confirme avec les tests standards, quoi.
Quelle est votre action ici au Centre de coordination régionale de la lutte contre le SIDA ?
Alors, donc, en fait, COREVI, c'est la coordination régionale de la lutte contre le VIH, parce qu'on essaye justement, le terme est important, c'est que l'objectif aujourd'hui, on a tous les moyens pour que le SIDA n'existe plus. C'est-à-dire que si les personnes étaient dépistées suffisamment précocement, finalement, le SIDA ne serait plus un problème, puisque avec les traitements dont on dispose, si les gens ont la possibilité d'avoir accès au traitement, donc accès au dépistage et accès au traitement, on ne verrait plus de sida. C'est ce qu'on appelle classiquement la pyramide ou la cascade de la prise en charge. On sait qu'en France, il y a à peu près 130 000 personnes qui sont infectées par le VIH. Et on sait que dans ces 130 000 personnes-là, il y en a à peu près 25 000 à 30 000 qui ne connaissent pas leur séropositivité. Donc déjà, finalement, sur les 130 000, il y en a 30 000 qui vous échappent. Donc on va reprendre les 100 000 qui connaissent leur séropositivité à peu près, bon, j'arrondis, vous en avez quand même quelques-uns qui connaissent leur séropositivité mais qui ne sont pas dans le circuit de soins. Donc ces gens qui n'ont pas souhaité ou à qui on n'a pas su proposer les bonnes conditions pour qu'ils se fassent suivre, donc on va perdre 10 à 15% à ce niveau-là. Et dans ceux qui sont dans le circuit de soins, vous en avez un certain nombre qui ne sont pas traités. Et donc finalement, quand vous regardez, si l'objectif c'est que tous les patients séropositifs n'aient plus de virus qui circule, eh bien en France, on est à peu près à 50%. C'est-à-dire si on prend les 130 000, on a à peu près 50% de ces patients-là actuellement qui sont sous traitement et qui ont un traitement qui a un succès qui fait qu'on n'a plus de virus circulant. Alors c'est très bien du point de vue santé publique, parce que si on se compare par rapport à d'autres pays industrialisés, pour vous donner un ordre d'idée, les États-Unis sont en dessous de 22%. C'est-à-dire qu'ils ont une mauvaise politique de dépistage, qui n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas à l'échelle de l'importance de la maladie dans leur pays. Et surtout, ils perdent énormément sur l'étape prise en charge. C'est-à-dire que des personnes qui se connaissent séropositives, il y en a énormément qui ne sont pas en soins et pas traitées, bah, pour des raisons qu'on connaît, de couverture d'assurance maladie, etc. Donc ils perdent énormément à ce niveau-là. Chose qu'on perd très très peu en France. On a très peu de pertes. On tape beaucoup sur la qualité de notre système de santé. Mais quand on regarde sur des indicateurs comme ça, on s'aperçoit qu'on a vraiment très peu de pertes entre les gens qu'on dépiste et les gens qu'on met dans le soin. Et ça, c'est vraiment tout à fait... ça prouve la qualité du système. Et donc le rôle du COREVI, c'est, je dirais, un peu de maintenir cette qualité-là en pratique et de la maintenir au niveau régional, c'est-à-dire de faire à ce que c'est pas parce qu'on habite voilà, dans un petit village du centre Bretagne qu'il faut pas qu'on ait du tout d'accès au dépistage. Il faut qu'on mette en place des moyens pour que les gens puissent se faire dépister s'ils en ont besoin, s'ils en ressentent le besoin. Donc par exemple, dans les endroits où il n'y a pas de centre de dépistage, on va aller plutôt sensibiliser les médecins généralistes au dépistage. Dans des endroits où il y a des centres de dépistage mais qui ne touchent que des populations qui sont pas très à risque, c'est le cas à Rennes. Sur les 4000 dépistages que fait le centre de dépistage de Rennes, il y a plus de 3500 personnes qui ont finalement très 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 peu de facteurs de risque. Donc on va inciter à ce qu'il y ait des actions qui soient faites pour aller vers les personnes qui ont le plus de risques, donc avec les associations d'usagers, avec un certain nombre de partenaires. On va mettre en place ce qu'on appelle du dépistage mobile pour aller vers des populations précarisées, éventuellement vers la prostitution. On sait qu'il y a beaucoup plus de risques d'attraper le VIH. Voilà, donc c'est des actions pour aller au plus près des populations qui sont les plus concernées. Et l'avantage d'avoir une structure comme le Corévi, c'est qu'on a des données régionales, c'est-à-dire qu'on sait par exemple exactement, pour toutes les personnes qui sont nouvellement découvertes séropositives en Bretagne, on sait comment elles se sont contaminées. Donc on sait aujourd'hui par exemple que chez les hommes, on a encore 55% d'hommes qui se contaminent par rapport homosexuel, alors que ça représente qu'une toute petite pourcentage de la population. Et donc ça veut dire qu'on n'est pas bon dans la prévention à ce niveau-là, quoi. C'est qu'on n'a pas réussi, c'est pas que l'information passe pas, parce que la plupart des gens sont assez bien informés, mais ça n'a pas réussi à se transformer en attitude de prévention. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Si vous prenez le Corévi qui s'occupe de la Seine-Saint-Denis, par exemple, où on travaille beaucoup avec nos collègues de Bobigny, eux, la problématique, c'est vraiment les gens qui viennent d'Afrique subsaharienne ou qui sont mal informés, où il y a beaucoup de non-dits autour du VIH, et donc les actions vont être très différentes. Donc l'idée d'avoir des coordinations régionales, c'est que chacun puisse adapter ses actions, mettre le paquet un peu sur ce qui lui paraît être prioritaire dans son épidémie locale, et puis ensuite d'échanger avec les autres. Si on a fait une action intéressante qui nous paraît productive, on va pouvoir la partager avec d'autres structures qui n'ont pas besoin de tout recommencer, tout réécrire. Donc il y a beaucoup de partage entre les différentes structures régionales à ce niveau-là. C'est un système le système d'échange fonctionne assez bien.
Le traitement est-il pris en charge par la sécurité sociale ?
Oui, alors non seulement le traitement, mais toute la prise en charge, parce qu'il y a à la fois les médicaments, mais il y a le suivi médical, il y a le coût de la biologie qui est quand même pas négligeable derrière. Le VIH fait partie de ce qu'on appelle des affections de longue durée. Donc c'est une maladie qui dispose dans le jargon, d'une exonération du ticket modérateur. Ça veut dire que vous êtes remboursé à 100% par l'assurance maladie sans avoir besoin de passer par une mutuelle pour les remboursements complémentaires. Donc c'est toutes les maladies chroniques, ça va être le cancer, ça va être le diabète qui est dans cette situation-là également. Donc le VIH fait partie de ces pathologies-là. Donc les gens n'ont pas à payer leurs médicaments, c'est un arrangement direct entre les pharmacies et l'assurance maladie, parce que les coûts des traitements sont assez chers. Une trithérapie aujourd'hui en France, c'est facturé à l'assurance maladie de l'ordre de 700 euros par mois. Donc ça, c'est quand même des coûts qui sont quand même assez élevés. Ça n'a rien à voir avec le coût de fabrication du médicament, hein, puisque les mêmes médicaments, quand on les achète chez des génériqueurs en Inde, où ils sont d'excellente qualité, on est sur des coûts de l'ordre de 20 dollars, donc de 15 euros. Donc vous voyez qu'entre 15 et 700 euros, il y a quand même une différence. Donc c'est vraiment qu'une question de négociation entre l'assurance maladie et les firmes qui fabriquent les médicaments pour payer les coûts de production, les coûts de recherche. Alors que pour les pays en développement, on considère qu'on ne leur fait pas assumer ces coûts-là et que la seule chose qu'ils payent, c'est le coût de fabrication du médicament dans sa partie finie, on va dire. Donc c'est important qu'il y ait une bonne couverture maladie, puisque en France, on est quand même dans des soins qui sont relativement onéreux. La prise en charge d'un séropositif, ça a été calculé. D'ailleurs, c'est le coût est calculé parce que quand vous faites par exemple des campagnes de prévention, on a dit à un moment il faudrait dépister tout le monde une fois en France, c'est-à-dire tous les généralistes dépistent toute leur clientèle. Ça a un coût important, et donc, puisque chaque test de dépistage, les consultations, tout ça, ça a un coût important. Et donc, on regarde dans ces cas-là si on est coût efficace. On regarde pour une infection dépistée tôt, qu'est-ce qu'on va gagner en termes d'argent, parce que c'est important en termes de santé publique de savoir où c'est qu'on met le financement. Est-ce qu'on va le mettre dans le traitement? Est-ce qu'on va le mettre dans la prévention? Est-ce qu'on va le mettre dans la prise en charge? Donc, on fait des coûts, des calculs de coûts pour chaque pathologie de cette façon-là. Donc, pour le VIH, comme on est aujourd'hui dans une pathologie chronique où les traitements sont très chers et vont durer très longtemps, du coup, c'est très coût efficace de prévenir. Parce que même si on met beaucoup d'argent dans la prévention, ça coûte tellement cher une fois que les gens sont infectés que mettre le paquet sur la prévention, c'est un élément important.
Tout à l'heure, vous avez parlé de la syphilis. Comment vous expliquez, on va dire, une médiatisation importante autour du VIH, contrairement peut-être à d'autres maladies, d'autres MST ?
Pour la syphilis, c'est un phénomène plus récent. Donc je pense qu'elle sera peut-être médiatisée un petit peu plus tard, on va dire. L'épidémie reste assez confinée actuellement chez les hommes qui ont des rapports avec d'autres hommes, mais on sait dans ces cas-là qu'il y a des expansions épidémiques qui se font vers l'ensemble de la population en général dans un second temps. Ça avait été le cas pour le VIH au départ. Hein. Donc je pense que le VIH a il y a plein de choses autour du VIH qui font que c'est une maladie très discriminante, on va dire. Donc il y a la question de la transmission sexuelle, il y a la question de l'interdit, il y a la question... C'est vrai que c'est une maladie qui cumulait sur sa tête quand même beaucoup de choses. Au début, quand elle a été décrite, c'était les homos, les noirs, les toxicomanes. Alors je veux dire, dans une société qui peut être un peu puritaine, je veux dire, c'est assez facile d'en faire un épouvantail rapidement. Alors... Je dis ça, c'est le cas pour les sociétés industrialisées européennes, mais par exemple en Afrique, il y a un tabou sur le VIH qui est énorme encore, alors qu'il n'y a que la transmission hétérosexuelle et que, voilà, là, on va dire que le rapport sexuel en soi, c'est quand même quelque chose de très naturel, on ne voit pas trop ce qu'on pourrait lui reprocher. Et donc, dans beaucoup de pays africains, y compris dans les pays où il y a des prévalences très élevées, moi, je suis toujours extrêmement choqué de voir qu'au Swaziland, où il y a presque 30% de la population qui est infectée par le VIH, c'est-à-dire une personne sur trois est infectée par le VIH, il y a encore une discrimination majeure des séropositifs par l'ensemble de la population. Alors que quasiment tout le monde est concerné, tout le monde a dans sa famille, tout le monde a dans ses amis, tout le monde a quelqu'un de séropositif, et malgré tout, il y a des tabous majeurs autour de ça. Alors il y a pas mal de chercheurs qui travaillent là-dessus pour essayer de voir par quelle piste on pourrait évoluer, mais c'est pas évident, ça reste vraiment très, très profondément ancré. Et il y a une question de leadership politique. Quand vous voyez comme un pays comme l'Afrique du Sud, où il y a 10 millions de séropositifs aujourd'hui, dans les années 2000, le président d'Afrique du Sud, qui avait succédé à Nelson Mandela, la Thabo Mbeki, disait que le VIH n'était pas responsable du sida. Et que le responsable du sida, c'était les Blancs, c'était l'industrie pharmaceutique, c'était donc des trucs complètement incohérents. Ils ont pris 10 ans de retard sur la prise en charge des personnes. Donc quand vous avez des politiques qui ont des discours de ce type-là, ça renforce toutes les questions de tabous et de choses comme ça qui font que les choses évoluent peu. Donc il y a encore un travail énorme. Si on a réussi, je dirais, à avancer très bien sur le traitement, sur la prise en charge, sur la lutte contre les discriminations, alors là, on est dans l'échec total. Hein. C'est extraordinaire de voir que 30 ans après le début de l'épidémie, on est quasiment à la case départ en termes de discrimination et de la façon dont le VIH est vécu. Quoi.